Chers amis, nous poursuivons notre réflexion sur la conscience morale. Alors au chapitre 4, verset 6 du livre d'Osée, le Seigneur se plaint. « Mon peuple périt faute de connaissance. » Le Seigneur se désole de ce que les prêtres et les prophètes, au lieu d'instruire le peuple, font preuve de négligence, d'avidité et même de brigandage. Et la conséquence, c'est une corruption généralisée. Je cite encore le début du chapitre 4 d'Osée. « Il n'y a ni fidélité, ni amour, ni connaissance de Dieu dans le pays, mais parjure et mensonge, assassinat et vol, adultère et violence, et le sang versé succède au sang versé. Voilà pourquoi le pays est en deuil et tous ses habitants dépérissent, jusqu'aux bêtes des champs et aux oiseaux du ciel, et même les poissons de la mer disparaîtront. » C'est très important ce que nous dit le Seigneur. La cause du dépérissement de la terre, de ses habitants, hommes, animaux ou oiseaux, ce n'est pas d'abord la crise écologique, ce n'est pas d'abord le réchauffement climatique. Cela, ce n'est qu'une possible conséquence. La cause profonde et originelle du dépérissement de la terre, c'est d'abord le péché de l'homme, son oubli de Dieu, sa vie désordonnée et mauvaise. Si nous voulons le refleurissement de la terre, il faut prendre les bons moyens, non pas injecter des milliards pour pallier au dérèglement climatique, mais inviter l'homme à la conversion, à la pénitence, à l'abandon du péché qui gangrène son cœur, péché dont les conséquences se déploient sur la terre. Nous avons une vision tellement matérialiste des enjeux de ce monde que nous sommes rendus incapables de voir que ce sont d'abord des enjeux spirituels. Pour ceux qui ne seraient pas convaincus par la parole de Dieu, souvenez-vous de ce que la Vierge Marie a dit à la Salette en 1946 au Petit Berger. « Si mon peuple ne veut pas se soumettre, c'est-à-dire se soumettre à Dieu, à ses lois d'amour, je suis forcée de laisser aller la main de mon fils. » Elle est si lourde et si pesante que je ne puis plus la retenir. Je vous ai donné 6 jours pour travailler. Je me suis réservé le 7e, et on ne veut pas me l'accorder. C'est ce qui appesantit tant le bras de mon fils. Ceux qui conduisent les charrettes ne savent pas parler sans y mettre le nom de mon fils au milieu. Ce sont les deux choses qui appesantissent tant le bras de mon fils. Autrement dit, la Vierge comme reine des prophètes, se plaint elle aussi de ce que Dieu est oublié, que le dimanche n'est plus honoré comme jour du Seigneur, et que le nom de son fils est même blasphémé. Et la conséquence de ses péchés, eh bien, c'est la terre aride qui ne donne plus son fruit, comme dans le livre d'Osée. La Vierge continue en effet en disant « Si la récolte se gâte, ce n'est qu'à cause de vous autres ». Donc pas à cause d'un dérèglement climatique causé par l'activité des hommes et les flatulences des vaches, comme certains voudraient nous en convaincre, mais à cause du péché des hommes. Et la Vierge poursuit. « Je vous l'ai fait voir l'année passée par les pommes de terre. Vous n'en avez pas fait cas. » Autrement dit, vous ne vous êtes pas repenti de vos péchés. C'est au contraire, quand vous en trouviez des gâtés, vous juriez et vous mettiez le nom de mon fils. Elles vont continuer à se gâter. À la Noël, il n'y en aura plus. Et pour bien montrer le lien entre le péché et l'aridité de la terre, Marie poursuit en disant « S'ils se convertissent, les pierres et les rochers se changeront en blé, et les pommes de terre se trouveront ensemencées par les terres. » Donc l'état de la terre est conditionné par l'état de notre âme. Si le péché nous domine, la terre en subit les conséquences et ne donne plus rien. Mais si nous nous repentons, si nous revenons à Dieu, alors la fertilité de la terre peut revenir de manière même miraculeuse. Et on voit que la Vierge est animée du même esprit prophétique qu'Osée, car l'esprit prophétisait à travers la bouche d'Osée pour dire que la caste sacerdotale avait une responsabilité dans l'ignorance des gens, et donc dans la corruption généralisée de la société. Marie, dans le secret donné à Mélanie Calva à la Salette, pointe les mêmes défaillances, puisqu'elle dit « Les prêtres, ministres de mon fils, Les prêtres, par leur mauvaise vie, par leur irrévérence et leur impiété à célébrer les saints mystères, par l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur et des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques d'impureté. Oui, les prêtres demandent vengeance et la vengeance est suspendue sur leur tête. Malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu, lesquels, par leur infidélité et leur mauvaise vie, crucifient de nouveau mon Fils. Les péchés des personnes consacrées à Dieu crient vers le ciel et appellent la vengeance. Et voilà que la vengeance est à leur porte. Car il ne se trouve plus personne pour implorer miséricorde et pardon pour le peuple. Il n'y a plus d'âme généreuse. Il n'y a plus personne digne d'offrir la victime sans tache à l'Éternel en faveur du monde. Et on pourrait dire qu'il n'y a plus personne pour donner l'exemple d'une vie bonne. En effet, si les prêtres et les consacrés ne vivent pas selon les commandements de Dieu, comment pourraient-ils donner la connaissance de Dieu et de ce qui est bien au peuple? Comment pourraient-ils les aider à former leur conscience pour agir selon le bien? Et Marie poursuit. Les chefs, les conducteurs du peuple de Dieu ont négligé la prière et la pénitence. Et le démon a obscurci leurs intelligences. Ils sont devenus ces étoiles errantes que le vieux diable traînera avec sa queue pour les faire périr. Dieu permettra au vieux serpent de mettre des divisions parmi les régnants, dans toutes les sociétés et dans toutes les familles et jusque dans l'Église. On souffrira des peines physiques et morales. Dieu abandonnera les hommes à eux-mêmes et enverra des châtiments qui se succéderont pendant plus de 35 ans. La société est à la veille des fléaux les plus terribles et des plus grands événements. On doit s'attendre à être gouverné par une verge de fer et à boire le calice de la colère de Dieu. La nature demande vengeance pour les hommes et elle frémit d'épouvante dans l'attente de ce qui doit arriver à la terre souillée de crimes. Et plus loin, la Vierge montre bien la cause de tout cela. Les péchés des hommes sont cause de toutes les peines qui arrivent sur la terre, dit-elle. Donc aussi bien des famines, aridité de la terre, catastrophes naturelles, etc. Alors, ça peut être effrayant, mais en même temps, c'est très consolant. Car tous ces châtiments, toutes ces conséquences de nos péchés sont suspendues à notre liberté. Si nous nous repentons, si nous revenons à Dieu dans la prière, eh bien la terre refleurira, et les malheurs soit n'adviendront pas, soit s'éloigneront. Seulement voilà, la Vierge se plaignait du péché de ses enfants qui oubliaient Dieu et même blasphémaient le nom de son Fils. Elle disait cela en 1946. Que dirait-elle maintenant ? Désormais, c'est le sens même du péché qui a disparu, parce que le sens de Dieu a disparu. Comment se convertir dès lors, puisque l'on n'a même plus conscience du péché et qu'on ne pense pas que Dieu existe? Eh bien, c'est pourtant là la tâche de l'Église mère et éducatrice des peuples. Une mission d'éducation et d'enseignement qui est toujours à recommencer pour chaque génération. L'Église doit rappeler avec force et conviction le dessein bienveillant de Dieu envers l'humanité, appelé à la sainteté et même à la divinisation par la grâce de Dieu, comme nous le disait à la fois saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens et saint Pierre dans sa deuxième lettre. Dieu nous a élus en lui, dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ, nous disait saint Paul. Et saint Pierre renchérissait, « Par la gloire et la vertu du Christ, les plus grandes promesses nous ont été données, afin que vous deveniez ainsi participants de la nature divine, vous étant arrachés à la corruption qui est dans le monde. » Si l'Église rappelle la finalité merveilleuse de notre vie, elle se doit aussi d'en montrer le chemin, c'est-à-dire le Christ, mais aussi de dénoncer tout ce qui fait obstacle sur ce chemin, à savoir le péché. Car le vrai mal, et le seul mal absolu à vrai dire, c'est le péché, c'est-à-dire tout ce qui nous éloigne de la communion avec Dieu. Et c'est tellement évident, et pour Jean-Baptiste, et pour Jésus, et pour les apôtres, que leur première prédication est toujours d'abord un appel à la repentance et à la conversion. Si on ne commence pas par se reconnaître pécheur, on ne risque pas d'entrer dans une démarche de conversion puis de sanctification. Au bord du Jourdain, nous voyons Jean-Baptiste proclamant un baptême de repentir pour la rémission des péchés. Les gens viennent à lui et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain en confessant leurs péchés, nous dit saint Marc. De même et toujours dans l'Évangile selon saint Marc, il nous est dit comment Jésus inaugure sa prédication. Jésus proclamait l'Évangile de Dieu et disait « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est tout proche, repentez-vous et croyez à l'Évangile. » C'est la parole même que le prêtre nous redit en entrant en carême. Quant à l'apôtre Pierre après l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, que dit-il à la foule des gens qui accourent ? « Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. » Cette reconnaissance du péché qui nous entrave, nous enlaidit et nous blesse est donc le préalable à toute vie morale belle et bonne selon le cœur de Dieu. Seulement voilà, aujourd'hui nous voyons que de plus en plus le bien est appelé un mal et le mal est appelé un bien. Et donc il y a comme un aveuglement moral et une perte du sens du péché. Saint Jean-Paul II avait bien vu ce risque et dans son exhortation apostolique sur la réconciliation et la pénitence dans la mission de l'Église aujourd'hui, exhortation écrite en 1984, il pointait du doigt cette perte du sens du péché dans notre monde contemporain. Je le cite. Par la lecture de l'Évangile faite dans la communion ecclésiale, la conscience chrétienne a acquis au long des générations une fine sensibilité et une capacité aiguë de percevoir les ferments de mort que contient le péché. Une sensibilité et une capacité de perception qui permettent aussi de déceler ces ferments dans les mille formes que revêt le péché, dans les mille visages sous lesquels il se présente. Et c'est ce qu'on a coutume d'appeler le sens du péché. Et Jean-Paul II établit clairement le lien entre cette perte du péché et la perte du sens de Dieu. « Ce sens du péché, dit-il, a sa racine dans la conscience de l'homme et en est comme l'instrument de mesure. Il est lié au sens de Dieu, puisqu'il provient du rapport conscient de l'homme avec Dieu comme son Créateur, son Seigneur et son Père. » On voit bien qu'il y a donc un troisième terme entre le sens de Dieu et le sens du péché. Et ce troisième terme, c'est précisément la conscience humaine. Et Jean-Paul II continue, « La conscience constitue un élément essentiel qui fonde la dignité intérieure de l'homme et en même temps son rapport avec Dieu. » Et cela ne vous étonnera pas puisque je vous avais dit dans les émissions précédentes que la conscience était le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre, selon la Constitution Gaudium et Spes du Concile Vatican II. Et Jean-Paul II ne peut que faire ce constat. Trop de signes indiquent qu'à notre époque se produit une éclipse de la conscience, une anesthésie de la conscience. Et comment s'en étonner? Si Dieu n'existe plus, comment écouter sa voix qui se fait entendre dans notre conscience? C'est bien là le drame. Le mal n'est plus reconnu comme un mal, il est même accueilli comme quelque chose de bien, et alors il pénètre dans l'âme, dans le cœur et dans la vie des gens comme un poison sournois qu'ils ne repèrent pas et dont ils sont incapables de se repentir, de s'en confesser. Et ainsi les gens vivent habituellement contaminés par cette grave maladie, une maladie de l'âme, comme il y a des maladies du corps. Or, le remède, précisément, à cette maladie de l'âme, à cet aveuglement de la conscience dû à la perte du sens de Dieu et du péché, eh bien le remède, donc, c'est toujours le même, c'est le Christ. L'annonce du Christ, car lui seul est la lumière du monde. Sa parole est éternelle et retentit aujourd'hui encore avec tant de pertinence. « Moi, je suis la lumière du monde. » Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. En fait, Jésus donne dans les évangiles une pédagogie pour l'illumination des consciences. Celui qui accueille le Christ accueille la lumière. et alors il sort des ténèbres du péché et commence à emprunter le chemin de la vie. Et Jésus utilise une analogie pour montrer que de même que la lampe du corps, c'est l'œil par lequel entre la lumière du soleil, de même il y a une lampe de l'âme par où entre la lumière de Dieu qui vient illuminer la conscience et permettre de marcher dans la lumière. Réécoutons ce passage dans l'évangile de saint Matthieu. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc si ton œil est sain, limpide, ton corps tout entier sera lumineux. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, quelle ténèbre ! Eh bien, la conscience peut être comparée à cet œil. La conscience peut être habitée par la lumière ou par les ténèbres. Et c'est la conscience qui a fonction de diffuser la lumière du bien dans toutes les facultés de la personne, son intelligence, sa volonté, son cœur, et dans tous ses actes, c'est-à-dire le corps tout entier, si on file la métaphore donnée par Jésus. Et précisément, Jésus, par sa parole, par ses actes, va montrer l'exemple d'une conscience habitée par la lumière, dans l'accomplissement parfait de la volonté du Père, c'est-à-dire le bien. Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 6,38. Et s'il peut appeler ses disciples à être parfaits comme le Père est parfait, c'est parce qu'il est là pour eux comme lumière qui éclaire le chemin, qui éclaire les consciences. Il est celui par qui la grâce de Dieu est donnée pour vivre selon cette loi d'amour qu'il est venu redonner d'une manière nouvelle. Et la première condition pour vivre dans la lumière, c'est de s'ouvrir à la lumière. Et donc c'est la foi en lui, Jésus. Il faut d'abord croire en Jésus, lumière du monde, pour pouvoir l'accueillir. Et on comprend alors pourquoi c'est là un de ses premiers appels. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile, à cette bonne nouvelle du salut. À Jaïr, le chef de synagogue, tout éploré et angoissé à l'idée de la mort de sa fille, Jésus dit « Crois seulement ». De même, à l'aveugle de naissance, Jésus ne demande qu'une chose « Crois-tu au Fils de l'homme ?» La foi est comme le critère de l'évaluation des personnes que Jésus rencontre. On le voit bien dans les évangiles. Il loue la foi de certains, il blâme le manque de foi d'autres personnes ou de groupes entiers. La foi du centurion est exaltée, celle de ceux qui amènent le paralytique à Jésus aussi, de même la foi de la cananéenne. « Ô femme, grande est ta foi !» dit Jésus. Et cette foi ouvre les portes du miraculeux. Cependant, tous ne croient pas. Les habitants de Nazareth sont ainsi blâmés, mais aussi les disciples et les apôtres à certains moments. Souvenez-vous quand les apôtres ne sont pas arrivés à libérer le démoniaque épileptique. Ils en demandent à Jésus la cause. Et celui-ci répond « Parce que vous avez peu de foi ». Pourquoi Jésus insiste-t-il tant sur la foi ? Non seulement parce que dans la foi se joue l'ouverture du cœur au Christ lumière, capable d'éclairer tout homme venant dans le monde, mais aussi parce que c'est une manière pour lui de révéler à la conscience de chacun que l'on doit adhérer à lui comme étant l'unique sauveur, le seul qui peut remettre les péchés et donc purifier la conscience des œuvres mortes, selon l'auteur de la lettre aux Hébreux. La conscience comprend alors qu'elle ne doit pas chercher le salut dans les biens de ce monde ou dans les idoles ou dans les autres croyances religieuses. En fait, Jésus dégage ainsi les obstacles à l'illumination de la conscience. Il montre où est le vrai chemin de la lumière. Il révèle qu'il est ce chemin unique pour accéder à Dieu, le bien absolu, ce bien qui est l'aspiration profonde de tous les hommes. Non seulement Jésus montre qu'il est la voie pour une conscience éclairée, mais il donne aussi les moyens nécessaires pour la communion filiale avec Dieu, cette communion transformante où les disciples participent de la vie divine grâce au don de l'Esprit-Saint. Et ces moyens nécessaires, c'est sa parole, l'exemplarité de sa vie, les sacrements. Vous savez que le premier sacrement de l'initiation chrétienne, à savoir le baptême, est appelé le sacrement de l'illumination. Illumination, car le baptisé reçoit le Verbe de Dieu, son Fils Jésus-Christ, présenté par saint Jean comme la lumière véritable qui illumine tout homme. Le baptisé a reçu l'illumination, nous dit encore textuellement l'auteur de la lettre aux Hébreux au chapitre 6, verset 4. Il est devenu enfant de la lumière et enfant du jour, nous dit saint Paul dans sa première lettre aux Thessaloniciens au chapitre 5. Autrefois, vous étiez ténèbres, écrit saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 5, mais à présent, vous êtes lumière. Le baptisé est donc lui-même une lumière qui doit briller aux yeux des hommes pour qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux, nous dit encore Jésus dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 5, verset 16. Ainsi, on voit bien la dynamique mise en œuvre par le Christ. Attirer tous les hommes à lui qui est la lumière du monde, les attirer par la foi pour qu'ils accueillent cette lumière, qu'ils la laissent non seulement illuminer leur conscience, mais aussi se manifester dans des actes qui rendent témoignage à la lumière. L'enjeu, c'est bien l'union à Dieu qui donne de devenir enfant de lumière. Dans la lettre aux Philippiens, Paul exhorte les disciples sur ce thème. Travaillez avec crainte et tremblement à accomplir votre salut, afin de vous rendre irréprochable et pur, enfant de Dieu sans tache au sein d'une génération dévoyée et pervertie, d'un monde où vous brillez comme des foyers de lumière en lui présentant la parole de vie. Parfois, on peut se demander comment lutter contre les ténèbres de cette génération dévoyée et pervertie dans laquelle se trouvaient les premiers chrétiens, mais où nous nous trouvons nous aussi aujourd'hui. Eh bien, le Seigneur nous a déjà répondu par sa parole. Il ne nous demande pas de nous ruer dans la mêlée, le sabre à la main, pour lutter contre tout ce qui est ténèbres. Il nous demande d'abord et prioritairement d'accueillir sa lumière en nous, de la laisser purifier nos cœurs des ténèbres qui l'habitent, de devenir des enfants de lumière. Et la lumière chassera d'elle-même les ténèbres. Voyez, les ténèbres ne peuvent plus rien contre des êtres illuminés par la lumière de Dieu. Le démon ne peut plus rien contre ceux qui ont choisi la voie des béatitudes, qui n'aspirent plus au bien terrestre, mais seulement au bien céleste, à la communion divine. Le démon n'a plus prise sur eux, puisque désormais, suivant le Christ, ils ont la lumière de la vie, comme nous le dit saint Jean au chapitre 8. Le démon n'a plus prise sur eux comme il n'avait pas prise sur Jésus. Rappelez-vous la parole de Jésus juste avant sa passion. Il vient le prince de ce monde. Sur moi, il n'a aucun pouvoir, aucune prise. Mais il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que je fais comme le Père m'a commandé. Jean 14, versets 30 à 31. Le chrétien dont la conscience est pure, rempli de la lumière divine, se laisse aimanter par la volonté du Père. Lui non plus n'a pas d'autre nourriture que celle de faire la volonté du Père. Tout le reste lui importe peu, car il sait que cette fidélité à Dieu dans l'amour lui obtiendra la vie éternelle et l'éternelle communion à ce qu'il chérit le plus, son unique bien, Dieu un et trine. Que peut lui faire désormais les séductions de ce monde ou les menaces des hommes? Rien. Il est prêt à renoncer à tout ce qui est un obstacle sur cette voie lumineuse. Il n'a plus peur. Il est fort en Christ. Et il peut reprendre l'hymne à l'amour de Dieu chanté par saint Paul. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Alors qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive? En effet, il est écrit, « C'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, qu'on nous traite en brebis d'abattoir. » Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. On sent à travers les paroles de saint Paul tout ce feu d'amour pour le Christ dont il brûlait. C'est ce même feu de l'Esprit-Saint, ce même zèle pour la vérité qui a donné à tant d'hommes et de femmes le courage de se lever pour dire non au mal et affirmer contre vents et marées leur fidélité au bien, à la vérité, à Dieu, notamment dans une démarche d'objection de conscience.
Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son salut avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son salut.
Je voudrais maintenant évoquer avec vous la question de l'objection de conscience. Alors, nous désirons tous vivre en accord avec notre conscience. Il en va précisément de la dignité de notre conscience, de notre dignité personnelle. Saint Paul, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 1er, verset 12, le pensait aussi puisqu'il disait « Ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience ». Autrement dit, ce qui fait notre gloire, ce n'est pas ce que les hommes pensent de nous, mais le témoignage que nous rend notre conscience. Si elle nous confirme dans le bien que nous faisons, alors l'esprit de gloire repose sur nous, et alors nous goûtons la paix intérieure. Ou bien, à l'inverse, si notre conscience nous blâme parce que nous avons fait le mal, alors c'est plutôt un esprit mauvais qui est sur nous, nous sommes dans le trouble, et ce trouble est une invitation à nous reprendre, à nous repentir et à changer notre comportement. Penser, parler, agir en accord avec sa conscience, c'est donc être en paix avec soi-même. C'est pouvoir se regarder dans la glace le matin sans avoir à rougir de nous-mêmes et de nos choix, sans avoir été forcés à faire ce que nous ne voulions pas. Seulement voilà, parfois nous pouvons nous trouver dans des situations où nous devons nous positionner avec courage pour demeurer en accord avec notre conscience. Nous devons résister à des injonctions, des ordres, des tentatives d'intimidation qui voudraient nous faire agir en contradiction avec ce qui nous habite profondément, avec la voix de Dieu qui murmure dans notre cœur « Fais le bien et évite le mal ». Nous entrons alors dans une objection de conscience, préférant suivre notre conscience plutôt que des ordres injustes, des ordres qui s'opposent à la loi divine, à la loi naturelle, à ce qui est juste et bon. Il y a quelque temps, nous nous étions penchés sur la loi naturelle et nous avions vu qu'elle trouvait son origine dans ce sens moral originel qui nous poussait intérieurement à faire le bien et à éviter le mal. À partir de ce premier principe connu immédiatement, « fais le bien, évite le mal », et à partir de la prise en considération des inclinations naturelles de l'être humain, eh bien, nous avions vu que celui-ci, par sa raison, était capable de reconnaître et formaliser les grands principes de la loi naturelle. D'où aussi son caractère universel à la loi naturelle est immuable, parce que enraciné dans la nature humaine. Avec saint Thomas d'Aquin, nous avions vu qu'il existait trois grandes inclinations ou dynamismes présents dans l'homme. Le premier, c'était l'inclination à conserver et développer sa vie. À partir de là, par la raison, la personne comprend que la vie est un bien, et elle en déduit par la raison des principes moraux propres à sauvegarder et promouvoir la vie de la personne et sa dignité. C'est dans ce premier dynamisme que s'enracine l'interdit du meurtre, interdit de l'avortement, de l'euthanasie, du suicide, etc. Mais aussi l'interdit de tout ce qui dégrade et avilit la personne. Donc l'interdit de la torture, de la prostitution, de la traite des êtres humains, de la chosification des embryons, etc. Cet interdit du meurtre et de tout ce qui dégrade la personne, on le retrouve dans toutes les civilisations et il est à la base de nos législations, notamment ce qui concerne le respect des droits de l'homme, la Charte des droits de l'homme de 1948, avant qu'elle ne soit mise à mal par des revendications plus subjectives. La deuxième inclination, c'était l'inclination à l'union de l'homme et de la femme et à l'éducation des enfants qui lui est naturellement associée. Autrement dit, l'inclination à fonder une famille. De cette inclination, nous avions vu que découlait un certain nombre de règles, notamment concernant la sexualité. L'hétérosexualité fondée en nature, inscrite comme message éthique dans le corps, qui a naturellement une signification conjugale du fait de la différence sexuelle, entraîne l'interdit de tout ce qui nie cette différence entre les sexes, donc l'homosexualité, mais aussi la sexualité entre les générations ou à l'intérieur de la famille, d'où la prohibition de l'inceste, par exemple. La raison va aussi élaborer à partir de ces inclinations naturelles des valeurs et des préceptes moraux propres à protéger la cellule familiale, d'où l'élaboration de l'institution du mariage, la promesse de fidélité nécessaire pour offrir un cadre stable pour l'éducation des enfants. De là vient aussi la reconnaissance de la liberté pour les parents d'éduquer leurs enfants selon leurs valeurs propres. La troisième inclination, c'était l'inclination à la vie en société, donc l'amitié, le dialogue, etc. Et inclination aussi à la recherche de la vérité, vérité sur Dieu notamment, puisque l'homme est un être par nature spirituel. C'est là la dimension sociale et transcendante de la personne. À partir de ces inclinations, par la raison, les hommes ont vu comme des biens à promouvoir le bien commun, la paix civile, mais aussi la liberté religieuse, liberté de conscience, de pensée, d'expression. L'homme doit pouvoir librement chercher à déployer ce pour quoi il est fait, ce à quoi il est appelé, sa relation avec Dieu. Vous voyez, cette liberté religieuse relève de la loi naturelle. C'est important de s'en souvenir au moment où elle est battue en brèche de tant de manières et dans tant de lieux. Ainsi, la loi naturelle, toutes ces grandes valeurs universelles, ces principes moraux généraux, cette loi naturelle donc est en l'homme comme une boussole mise par Dieu. Elle est une participation à la loi éternelle, c'est-à-dire à la sagesse de Dieu dans la créature raisonnable. Cependant, cette loi naturelle comme telle a besoin de s'incarner dans la société humaine, et notamment dans la société politique, sous forme de lois humaines propres à favoriser le bien commun, qui est à la fois le bien des personnes et le bien de tous. Il faut bien comprendre que si le péché n'existait pas dans le cœur des hommes, la loi morale suffirait à les rendre vertueux. Mais malheureusement, le péché originel, le vice et la perversion constituent des obstacles à ce fonctionnement de la loi naturelle. Aussi est-il indispensable que celle-ci soit enseignée de façon officielle dans le cadre d'une société donnée. C'est le rôle pédagogique de la loi. Soit pour contraindre les réfractaires à agir bien, soit surtout pour donner à tous une véritable éducation de la conscience, des poteaux indicateurs du bien. Cette fonction pédagogique absolument indispensable est remplie au niveau de la société par la loi positive humaine. La loi positive est une expression du droit positif. Positif, ça vient de positum en latin, c'est-à-dire posé, c'est-à-dire le droit tel qu'il existe réellement, concrètement. Le droit positif, c'est donc l'ensemble des lois écrites et rassemblées dans des codes et qui s'appliquent dans une société donnée à un moment donné de son histoire. Du fait de sa nature contingente, il diffère du droit naturel qui, lui, est invariable et qui propose d'une manière absolue les grands principes de la justice et du bien. Il va sans dire que le droit positif, pour être légitime, doit trouver la source de son inspiration dans le droit naturel et donc ne pas être en opposition avec lui. En fait, le droit positif est nécessaire. Il s'agit de prendre les hommes tels qu'ils sont, pécheurs, et souvent peu déterminés à faire le bien, même s'ils y aspirent au fond de leur cœur, du fait de la loi naturelle inscrite en eux. Et ceci pour les aider à se transformer et à progresser sur le chemin du bien, de la vertu. Alors bien sûr, les lois humaines sont forcément imparfaites, formulées par des hommes eux-mêmes faillibles. Elles n'en ont pas moins pour finalité la vie bonne à laquelle se réfère toute loi. Cette vie bonne, qu'on appelle bien commun lorsqu'elle concerne la cité politique, les lois y conduisent en lui fournissant le cadre nécessaire à l'épanouissement moral de ses membres. En premier lieu, la paix civile et extérieure, ensuite la justice entre les citoyens, mais aussi une certaine convivialité ordonnée et la moralité publique. Alors, vous comprenez que dans cette optique, la loi humaine positive, pour être le plus juste possible, pour servir au mieux l'humanité et la dignité de chaque personne et de tous les hommes, doit découler de la loi naturelle qui est la loi morale inscrite en nous par Dieu. Cela signifie concrètement qu'il y a une norme qui dépasse toute loi positive, qui est supérieure à tout autre et qui s'impose à tout homme, même contre les lois de son propre pays et en dépit des ordres reçus de ses propres autorités. Eh bien, ce qui ne peut jamais être subordonné à autre chose, ce qui ne peut être placé en second rang, et je dirais qui juge tout. Ce bien réside dans le fait qu'il existe une nature humaine qui transcende toute norme et que l'on doit respecter quelles que soient les circonstances. Cette norme préexiste à toute détermination légale et résulte de la nature même de l'homme qui doit toujours être considéré comme une fin en soi et jamais comme un moyen. Nulle personne et nul État ne peut s'exonérer de cette loi supérieure, même non écrite, mais doit s'y conformer. C'est en vertu de ce principe qu'on a pu mettre en place le délit de crime contre l'humanité, par exemple. C'est aussi sur ce fondement-là que la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée par les Nations unies le 10 décembre 1948. Cette déclaration ne fait que prendre acte de la prééminence de la loi naturelle lorsqu'elle stipule dans son préambule que, je cite, « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix. » En effet, elle reconnaît ce qui préexiste nécessairement à la déclaration, et donc elle ne le crée pas. Ce qu'elle reconnaît est une dignité inhérente, par conséquent fondée sur une nature humaine qui est ainsi présupposée. Voyez, ce n'est pas l'État, par des lois, qui donne sa dignité à l'homme. L'homme, du fait qu'il est homme, a une dignité intrinsèque. Et cette dignité, elle lui vient de Dieu, puisqu'il a été créé à son image et ressemblance. Cela, la Déclaration universelle des droits de l'homme ne le dit pas, mais c'est pourtant le fondement implicite. Vous voyez l'importance de cette référence à la loi naturelle, ou droit naturel, pour le droit positif. Le droit positif a un juge, d'une certaine façon. Il a une norme qui lui permet de garder le cap du bien et de la justice. Et cette norme, c'est la loi naturelle. Sinon, pointe le risque de lois arbitraires, des abus de pouvoir, voire du totalitarisme, quand l'État prétend s'affranchir de toute limite et édicter des lois qui n'ont plus de rapport avec le bien objectif, c'est-à-dire quand elles ne se réfèrent plus ni à la nature ni à la raison, mais qu'elles sont promulguées pour faire plaisir à la foule, ou pour accaparer le pouvoir, ou pour servir des intérêts privés, etc. Ce qui veut dire que la référence à la loi naturelle garantit normalement la vie, la liberté personnelle, la possibilité d'un état de droit, et plaide en faveur des délaissés, de ceux qu'oppriment des structures sociales oublieuses du bien commun. Monseigneur Mamberti, secrétaire pour les relations avec les États, lors de la 67e Assemblée générale des Nations unies en 2012, avait dit, je le cite, « L'homme n'est pas simplement une liberté qui se crée elle-même. L'homme ne se crée pas lui-même. Il est esprit et volonté, mais il est également nature. Et sa volonté est juste lorsqu'il respecte sa nature, l'écoute et s'accepte lui-même pour ce qu'il est, comme quelqu'un qui ne s'est pas créé lui-même. C'est ainsi et seulement ainsi que se réalise la véritable liberté humaine. Et ce n'est qu'ainsi que nous pouvons parler d'état de droit. Et en conséquence de cela, saint Thomas d'Aquin formule la quintessence de la doctrine de l'Église catholique quand il rappelle la parole de saint Augustin. « Il ne semble pas qu'elle soit une loi, celle qui ne serait pas juste. » Et saint Thomas d'Aquin en déduit, je le cite, « Toute loi portée par les hommes n'a raison de loi, n'a valeur de loi, que dans la mesure où elle dérive de la loi de nature. Si elle dévie en quelque point de la loi naturelle, ce n'est plus alors une loi, mais une corruption de la loi. » Autrement dit, une loi qui ne viserait plus le bien commun, qui inclut donc le bien des personnes, le respect de leur dignité, etc., eh bien une telle loi n'a plus valeur de loi, et donc on n'est pas tenu de lui obéir. Je donne un exemple concret. Nous avons en France une déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui déclare « Les représentants du peuple français constitués en Assemblée nationale ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. » Nous avons donc là une constitution qui déclare fonder le droit positif, toutes les lois, les décrets, les ordonnances, sur le droit naturel, puisqu'il y est question des droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Dans ces droits, il n'est pas spécifié que tout homme a droit à la vie, car cela paraît tellement évident au XVIIIe siècle que cela n'est pas mentionné. Les choses sont dites plus explicitement plus tard. L'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 énonce que, je cite, « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. » Puis, nous avons l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 qui déclare que, je cite, « Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit s'avère protégé par la loi, nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. » Là, nous sommes donc devant un droit positif directement inspiré du droit naturel et donc conforme à la loi naturelle qui dicte de ne pas faire le mal et donc de ne pas tuer. Donc c'est très bien, nous n'allons pas nous opposer à une chose pareille. Le droit français a aussi notifié dans son Code civil, article 16, que la loi française, je cite, garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Magnifique. Seulement voilà, l'interprétation qui en a été donnée, c'est que le commencement de la vie de l'être humain, c'est le moment de sa naissance. Donc la vie de l'enfant à naître, la vie de l'enfant in utero, n'est plus protégée. Et c'est ce qui a permis à la loi Veil, en 1975, de rendre possible l'avortement. Voyez, il y a les grands principes inspirés du droit naturel et au final, un droit positif qui est en contradiction absolue avec le droit naturel. Car si l'on veut être droit dans son jugement et honnête intellectuellement, on ne peut pas soutenir qu'un être humain, avant sa naissance, n'a pas commencé à vivre. C'est une ineptie. Tout le monde sait qu'un enfant dans le ventre de sa mère a commencé à vivre. Il bouge, il interagit avec la maman, il est sensible aux situations de calme ou de stress. Il est bien vivant et c'est un être humain, non un chimpanzé ou une laitue ou une tumeur de la maman. Donc ce qui aurait dû être juste et conforme au droit naturel, c'est de reconnaître que la loi française garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie, c'est-à-dire dès sa conception, et non pas seulement dès sa naissance. Puisque dès le stade du zygote, il est vivant et unique. Tout le matériel chromosomique est là qui fait de lui un petit homme. Tout petit certes, mais déjà un être humain vivant. Cela pour vous faire comprendre la distinction entre d'une part le droit naturel, c'est-à-dire l'ensemble de normes théoriques prenant en considération la nature de l'homme et sa finalité dans le monde, droit qui s'inspire de la loi naturelle, et d'autre part le droit positif qui devrait s'en inspirer, mais qui s'en détache parfois et même de plus en plus. Et c'est dans cet écart entre les deux que l'objection de conscience va trouver sa justification. Revenons donc maintenant plus en détail à la question de la loi, et plus précisément, essayons de considérer les critères d'une loi juste. Pour être juste, il faut d'abord qu'une loi soit ordonnée au bien commun, œuvre de raison dans les deux sens du mot, à la fois rationnelle, c'est-à-dire fruit d'une réflexion sur le bien à poursuivre en commun, et raisonnable, c'est-à-dire adapté à la situation en vue de favoriser le progrès de tous. Deuxièmement, la loi doit aussi être équitable, c'est-à-dire ne pas peser inégalement sur les citoyens. Il y a une question de proportionnalité. Par exemple, dans les impôts, le pauvre n'a pas à payer autant d'impôts qu'un riche. Troisièmement, la loi doit aussi émaner de l'autorité qui a le pouvoir de l'édicter, c'est-à-dire le peuple ou ses représentants, avec l'exercice de la contrainte si on n'obéit pas à la loi. Donc c'est tout l'arsenal des sanctions. Et avec l'obligation pour tous d'obéir à la loi civile. Vous vous souvenez que saint Paul nous rappelle l'importance du respect envers ceux qui ont la charge de gouverner, charge qui doit être envisagée comme un service de la cité et du bien commun. Il va de soi aussi que les gouvernants ne sauraient se considérer comme exempts ou au-dessus de la loi morale et du jugement de leur propre conscience dans l'exercice de leurs fonctions. Dans la question qui nous occupe, celle de l'objection de conscience, ce qui est en cause, ce n'est pas la légitimité du législateur, mais c'est le contenu de la loi, juste ou injuste, et le conflit qui peut survenir entre ce contenu et l'obéissance légitimement due à l'autorité. Donc, si une loi est juste, c'est-à-dire si elle est ordonnée au bien commun, si elle n'excède pas le pouvoir de celui qui la promulgue, et si elle est établie de telle sorte qu'elle fait peser les charges d'une manière proportionnée sur tous, il n'y a pas de problème. De telles lois obligent en conscience car elles dérivent de la loi naturelle. Autrement dit, c'est normal de payer des impôts. De même, vous ne pouvez pas dire « c'est injuste et je me rebelle parce que vous vous êtes pris un PV parce que vous rouliez trop vite ». Le code de la route sert au bien commun. Le problème, en revanche, se pose pour les lois injustes. Saint Thomas d'Aquin dit que les lois peuvent être injustes de deux façons. D'abord, par leur opposition au bien commun, ou bien quand le chef ne vise pas l'utilité commune des lois mais sa propre gloire, ou son enrichissement personnel, ou l'enrichissement de groupes privés, ou bien parce que le gouvernant outrepasse son domaine de légitimité, le pouvoir qui lui a été confié, ou bien quand les charges pèsent inégalement sur tous. Saint Thomas dit que de telles lois sont plutôt des violences que des lois, parce qu'elles ne sont pas justes, précisément. Aussi, de telles lois n'obligent-elles pas en conscience, sinon peut-être pour éviter le scandale et le désordre, dit-il. Autrement dit, pour éviter des maux encore pires. Car pour sauvegarder la paix civile ou éviter des désordres pires, on peut être tenu même à céder son droit, selon les paroles de saint Matthieu, qui disait « Si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, accompagne-le encore 2000. Si quelqu'un te prend ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. » Il vaut mieux parfois subir une injustice que de désobéir à une loi injuste si le mal qui s'ensuivra devait être pire au niveau de la société. Les lois peuvent être injustes d'une autre manière, par leur opposition au bien divin. Pas seulement au bien commun, mais au bien divin. Telles sont les lois tyranniques qui poussent à l'idolâtrie ou à toute autre conduite opposée à la loi divine, dit saint Thomas d'Aquin. Ce sont toutes les lois humaines qui sont ordonnées contre le commandement de Dieu, c'est-à-dire qui sont contraires au principe premier de la loi morale naturelle. Ce sont des lois iniques, et il n'est jamais permis d'observer de telles lois. car il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, selon la parole de saint Pierre dans les Actes des Apôtres au chapitre 5. Et donc, c'est la loi inique qui va être le point de départ de l'objection de conscience. En fait, cela a toujours été, mais ce qui est vraiment nouveau en ces temps, c'est le développement considérable de lois transgressives qui portent atteinte aux droits humains les plus fondamentaux, au premier rang desquels le respect de la vie, que ce soit par l'avortement ou l'euthanasie. Et face à une loi inique, le citoyen est obligé en conscience de ne pas suivre les prescriptions des autorités civiles, nous dit Jean-Paul II dans sa lettre « L'évangile de la vie ». Eh bien, c'est ce que nous développerons la prochaine fois avec des exemples plus concrets. En attendant, fortifions-nous dans la méditation de la parole de Saint-Pierre qui, face à des ordres impies, s'y est opposé courageusement en osant proclamer « Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ».